Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Combien ce soir vous êtes amoureux du roi des rois et vous avez envie de lui dire « Seigneur, je t'aime ». Vous savez, il y a dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien sûr, il y a ces moments où on sait que Dieu nous parle. Et on sait qu'il faut qu'on s'arrête quelques secondes, quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour être sûr que notre vie est alignée avec ce que Dieu veut faire. Et la série Respire est pour moi ce genre de série où on s'arrête sur l'espace de quelques semaines et on se pose des bonnes questions. Et si on veut avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. On va lire ensemble ce soir le passage clé que nous avons commencé à lire depuis quelques jours maintenant, quelques semaines. C'est dans Proverbes 24 et verset 3. Et je tiens à vous encourager à vous dire que, comme vous le savez, nous sommes pour une église remplie de puissance. Nous savons que sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de puissance. Et nous savons que la puissance de Dieu réside et demeure et vient sur ceux et celles qui cherchent sa face. Mais je tiens à vous dire que c'est important de comprendre mon cœur ce soir. L'onction n'est pas un signe que Dieu approuve ta vie. Beaucoup de chrétiens ont de l'onction, mais Dieu n'approuve pas leur vie ne porte pas des fruits. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Tite et Timothée, et vous voyez que Paul donne au jeune Timothée, qui est pasteur à l'époque de l'église d'Éphèse, il dit « Timothée, je vais te donner, et toi aussi Tite, je vais te donner une liste de caractéristiques des hommes que tu dois avoir autour de toi. En d'autres termes, comment choisir des hommes qui vont travailler à tes côtés ?» Et quand vous lisez l'épître de Paul à Timothée, l'épître de Paul à Tite, vous vous rendez compte qu'il n'y a, dans la liste de ces leaders, il n'y a pas en priorité, ils doivent être remplis d'onction. Cela est sous-entendu, être rempli du Saint-Esprit. Ce qu'il cherche avant tout, Paul, c'est d'avoir des hommes et des femmes dont les fruits rendent gloire au roi. Des hommes et des femmes dont la vie reflète tous les jours le caractère de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup de la gloire en ce moment, et j'aime la gloire de Dieu, et je veux plus de sa présence, de sa gloire. Mais la première révélation de la gloire de Dieu, c'est le mot en grec « doxa », qui parle de réputation, qui parle du caractère. En d'autres termes, plus une église est remplie de la gloire de Dieu, plus les attributs de Dieu sont visibles. Et l'un des premiers fondements, l'un des premiers fruits qui se manifestent lorsqu'un homme ou une femme est connecté à Dieu, c'est la sagesse. La Bible parle souvent de la chose principale, la première chose à faire est de chercher la sagesse. Vous savez, donner de l'onction à un homme qui n'a pas de sagesse revient à donner à un enfant un bazooka. Il faut, pour vaincre l'ennemi, le bazooka. Mais pour cela, il faut un homme capable de savoir quand frapper, où frapper, qui frapper, comment frapper et quand s'arrêter. Et vous savez, je prends sur moi ce soir en tant que Bruno Picard. Mon cœur soupire après Dieu, je veux de l'onction dans ma vie. Combien Dieu sait que je veux des miracles, des signes, des prodiges, je veux sa puissance. Mais en tant que papa, mari et leader, j'ai compris une chose. Si je suis le seul à avoir la puissance de Dieu, je vais accomplir un acte aussi grand que celui-là. Imagine que je suis le seul à avoir l'onction, je vais avoir un impact quelque part bien mesuré. Mais si je suis un homme sage, je vais pouvoir m'entourer de 10 hommes qui ont de l'onction. Et dans notre vie, des fois, il faut savoir choisir, est-ce que je veux que l'onction ou est-ce que je veux la sagesse et l'onction ? Alors pourquoi est-ce que je partage tout ça ce soir? C'est important parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, mois après mois, année après année, prient, cherchent Dieu, prient en langue pendant des heures, mais leur vie de tous les jours ne change pas. Leur relation avec leur épouse évolue peu, leur relation avec leur leader évolue peu. Combien de fois j'ai vu des hommes ou un quitter les églises en rébellion? Parce qu'on a oublié une chose importante, comment construire une église, comment construire une famille, comment construire un couple? Oui, il faut de l'onction, il faut sa présence. Je vous en supplie, écoutez-moi bien, il faut sa présence. Mais sa présence et la vraie onction que Dieu donne est toujours connectée à la sagesse de Dieu. Proverbe 24, 3 nous dit, il faut de la sagesse. On va lire ensemble, vous êtes d'accord? À 3, 1, 2, 3. Il faut de la sagesse pour construire une maison et de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Le contexte ici, c'est l'expérience augmente son autorité. Il nous faut en ce moment prendre le temps de nous demander pourquoi est-ce qu'après des heures de prière, les chants que l'on chante, les superbes célébrations que nous avons, les invités qui viennent nous voir, pourquoi l'Église de Christ, en général à La Réunion ou en France, a tellement de mal de respirer. Elle a du mal à respirer, respirer la vie abondante. Jean 10 nous parle de la vie surabondante, Zoé en grec. La vie qui déborde, la vie qui fait que les gens ont envie de se dire « Je veux ton Dieu ». Je veux connaître ce Dieu-là. Oui, la puissance est importante, mais la puissance sans la sagesse de Dieu, la puissance sans les actes qui glorifient le roi, la puissance sans les fruits peut s'avérer avoir un effet inverse. Et la puissance sans les fruits, la puissance sans les fruits attire les regards de l'homme sur l'homme. La puissance avec les fruits attire le regard de l'homme sur Dieu. Ma vie en 4 chapitres, on a vu ensemble cela, mais je veux se le répéter. Ma vie en 4 chapitres, chapitre 1, je m'en vais me promener, me gambader. Et tout d'un coup, je vois pas, il y a un trou, et je tombe dans le trou. Et il me faut des semaines, il me faut des mois, il me faut presque des années pour en sortir. Et j'ai été blessé, j'ai été matraqué, l'ennemi m'a achevé, ma famille a pris des coups. Et je m'en sors, et je repars, et je respire à nouveau, mais difficilement. Et je fais « Ok, c'était dur là ». Et je reprends la même direction et je me mets à nouveau à marcher dans la même direction. Et bam, je me paye le même trou, le même problème, la même galère, les mêmes habitudes, les mêmes tendances. Je prie, je crie au secours, Dieu me libère dans sa grâce, il vient me soutenir, il m'enlève du trou, je sors du trou. Je suis fatigué, blessé, brisé, amer, rancunier, bref, je guéris mon cœur difficilement avec l'aide de Dieu. Je galère, je perds 10 ans dans ma vie. Je veux toujours aller dans la même direction parce que je suis un chrétien français. Et j'avance, mais comme je suis français, je me crois être intelligent. Donc devant le trou, je fais « Ah, je t'ai vu, espèce de trou !» Et du coup, je me dis « Jusque-là, je ne vais pas me faire avoir. » Mais comme je suis un chrétien français et réunionnais en plus, je vais m'approcher du trou pour voir pourquoi le trou était là. Et bam, je glisse, je retourne dans le même trou, le même travers, le même problème, la même habitude. Le cycle est à nouveau sur on. Je sors du trou, je galère à nouveau. Ce coup-ci, je promets à Dieu, je pleure, je regrette. Je veux respirer un coup dans ma vie. Je sors du trou, 4e étape de ma vie, 4e chapitre. J'en ai marre, je change de direction. Je vais ailleurs. Ça, c'est une vie de repentance. La repentance, c'est de se dire, j'ai fait cela, je ne refais plus ça. J'entends ce que Dieu me dit, j'entends ce que les autres me disent, je vois ce que l'autre vit et je m'identifie, je me dis, ce qu'il fait là, ça ne marche pas, il se plante. Je vais regarder, être sûr de ne pas refaire les mêmes choses. J'ai promis à Dieu que je peux écrire aujourd'hui un livre de 14 millions de pages sur tout ce qu'il ne faut pas faire dans le ministère. 100 millions de pages sur tout ce qu'il ne faut pas faire avec ta femme. J'ai promis à Dieu de tout faire dans ma vie pour vous donner le maximum d'idées, de conseils, de principes pour que vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai commises, afin de pouvoir respirer. Regarde, on est en train de dire, respire. Alors on a vu ensemble déjà 2 points. Le premier point c'était, le but de la fin de cette série Respire, c'est de vous aider à prendre des décisions et à dire plus jamais je ne vais faire telle chose, plus jamais. Tout le monde dit plus jamais. Je sais, en France, on dit « ne jamais dire jamais », mais nous, on dit quand même. On a vu ensemble « plus jamais, je décide de refaire ce qui n'a jamais fonctionné ». Vous vous souvenez de ça? Le deuxième point, c'était « je décide de ne plus jamais faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas ». J'ai reçu plein de messages de votre part qui m'ont dit « Bruno, merci beaucoup. » Certains ont pris des décisions radicales ce week-end. Ils ne veulent plus faire des choses qui les poussent à être la personne qu'ils ne sont pas. Personne qui n'est pas... Bref. Le troisième point ce soir, c'est essayer de changer quelqu'un d'autre. Ah, plus jamais je vais essayer de changer l'autre. Le quatrième point qu'on verra plus tard, c'est croire que je peux plaire à tout le monde. Plus jamais je vais croire que je peux plaire à tout le monde. Plus jamais je vais choisir le confort d'une décision basée sur l'instant au lieu de choisir les bénéfices du long terme. Combien de fois on a commis des erreurs en choisissant le confort de l'instant et on s'est rendu compte après que c'était une erreur parce que Dieu voulait nous donner des bénéfices pour le long terme. Là-dessus, moi, j'ai un bac plus 20. 6. Plus jamais je vais décider de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Tu peux aimer sans avoir confiance. Et de toute façon, c'est sage de ne pas faire confiance à ceux qui ne sont pas dignes de confiance. 7. Plus jamais je vais enlever mes yeux de la grande image. Et beaucoup de chrétiens n'ont même jamais vu la grande image. On vient à l'église le dimanche, on ne sait pas, ou le samedi ou le vendredi soir, et on ne sait pas pourquoi on se réunit. On se réunit pour une cause bien plus grande que la nôtre. On se réunit pour la cause de Christ. On se réunit pour que des hommes et des femmes viennent entendre la parole de Dieu, être sauvés par Jésus, transformés par Jésus, sanctifiés par le Saint-Esprit et qu'ils reçoivent une vie nouvelle, une destinée. 8. Négliger les choses importantes, négliger les détails. On va voir ensemble que c'est facile de croire que tout est important, mais ce n'est pas tout qui est important. Certaines choses ne sont pas du tout importantes. 9. Plus jamais je vais oublier de me demander où suis-je dans ma vie, qui suis-je dans ma vie, faire un bilan de sa vie. Faites-vous souvent un bilan de votre vie. Pas tous les jours, votre morale sera à zéro. Mais de temps en temps, une fois tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 2 ans, tu t'assois, tu fais « Bon, ok, j'ai des objectifs, j'ai des buts à atteindre, voici ma mission, voici ce que Dieu veut que je fasse, où est-ce que j'en suis en ce moment, est-ce que je m'approche du but ou pas ?» Et enfin, plus jamais je vais oublier ce qui se passe en moi influe sur ce qui se passe autour de moi et influe sur le reste de ma vie. Ce qui se passe dans mon cœur me donne une idée directe de ce qui va se passer demain dans ma vie. Ce qui se passe dans mon cœur ce soir me dit « Ouh, j'ai intérêt de diluer mon cœur, sinon mon futur n'est pas bien du tout. » Parce que le Proverbe dit en Proverbe 4, 23 que le cœur, du cœur, viennent les sources de la vie. Donc ce soir, tout le monde dit « respire ». Vous savez, on ne peut pas dire « respire » en disant « respire ». C'est « respire ». Ah, oh, il fait bon ce soir à La Réunion. L'hiver à La Réunion, c'est gagnant en ce moment. Ce soir, on va voir ensemble, plus jamais, plus jamais. Je décide de ne plus jamais essayer de changer quelqu'un d'autre. Alors, sans langue de bois, qui a déjà essayé de changer l'autre? 99%, le reste de vous, vous êtes totalement en déni. Vous mentez à vous-même. Come out, comme on dit. Ésaïe 7,15 nous dit « Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il sera rejeté le mal et choisir le bien. » Rejeter le mal et choisir le bien. Rejeter le mal ne suffit pas, il faut choisir le bien. La vie qui a du succès, qui plaît à Dieu, c'est celle qui intentionnellement est capable de dire « ça je veux pas, mais ça je prends ». Parce que trop de chrétiens disent « je veux pas cela » mais ne choisissent pas ce qu'il faut choisir. Et il est facile de remplacer un mal par un mal. La seule façon de ne pas remplacer un mal par un mal, c'est de remplacer un mal par un... C'est trop fort, rentre chez nous. Ce soir, on étudie ensemble comment faire lorsque la personne qui est en face de nous ne veut pas rejeter le mal et ne veut pas choisir le bien. Avez-vous déjà fait face à quelqu'un qui vous paraît ou qui vous semble être têtu? Ou peut-être opiniâtre. Ou peut-être vous pourriez vous dire, non, il est juste concentré sur ce qu'il fait. Et ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce que moi je veux faire. Avez-vous déjà vécu des moments où vous vous rendez compte que vous êtes face à un mur? Avez-vous déjà été à un mur? Parce que ça, on ne se pose pas la question, on se dit, là, c'est le mur. Toi, t'es la muraille de Chine, alors. Les relations sont difficiles lorsqu'on est, on est un chrétien, ou pas, hein, mais on fait face à quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne comprend pas qu'il doit changer, qui n'a pas envie de changer. J'ai un ami, dont je vais taire le nom, qui fait face à un gros problème de couple en ce moment. Et alors que je lui écris, je passe du temps avec lui, je dis, écoute, on va l'appeler Jean-Max. C'est pas lui, hein, mais Jean-Max, ça sonne bien ce soir. Il dit, Jean-Max, tu sais, il faut que tu fasses un effort. Et je lui dis, je montre plein de choses, je lui dépeins sa vie présente, je lui dépeins sa vie future. Je lui dis, si tu continues comme ça, tu auras ça. Et le gars me dit, mais tu sais, bon, tu comprends pas, Babette, c'est ma femme, elle est cool, mais c'est moi qui ai toujours raison. Le gars me dit, c'est une histoire vraie, je vais changer les noms. Il me dit, mais Bruno, je te promets, je suis parfait. Je regarde, comme il m'écrit, je regarde, je fais, c'est une blague. Je dis, lol, tu blagues? Il me fait, non, ma femme refuse de le voir. Là, j'ai pas un mur, j'ai une muraille de Chine. Et le gars me dit, il me dit, non, mais tu sais, je fais tout à la maison. Je dis, bon, décris tout. Je bosse, je rentre chez moi et je l'aide à ranger la table. Je fais trois petits points et il me dit, c'est tout, ça suffit pour elle pour l'instant. Sérieux? Jean-Marc, je ne peux pas t'aider parce que tu ne comprends pas que tu as un grave problème. Je n'ai pas de problème. Si j'ai un problème, c'est que ma femme ne voit pas qui je suis. Je suis parfait, je te dis. Là, on a un problème. J'ai appelé Houston, on a vraiment un problème. Considère les choses suivantes. As-tu déjà vécu des moments ou une relation, peut-être que tu es en plein dedans en ce moment, avec une personne qui passe son temps à voir tout en noir? Rien n'est jamais bon. La seule chose qu'elle sait faire, c'est critiquer et voir le noir et le mal partout. T'emmènes une idée, elle te démonte l'idée. T'emmènes une couleur, elle te démonte la couleur. Tu fais un plat, elle te démonte le plat. Et à la fin, tu as envie de la démonter. Tu fais face à une personne sous l'emprise d'une addiction. Là, c'est moins marrant, mais qu'il y a de l'alcool ou la drogue. Et tu essaies de lui faire comprendre, mais ce n'est pas la bonne chose. Arrête de boire ou arrête de fumer. Et là, le gars te dit, mais je peux pas, tu comprends, ça me rend cool, ça me rend zen. Tu fais face à une personne dans ton boulot irresponsable. Elle est membre de ton équipe et elle fait rien. Et quand le patron arrive, bonjour patron, j'ai tout fait. Et en fait, toi qui as tout fait, elle fait croire que c'est elle, t'as envie de l'étrangler, mais elle ne fait rien, elle est irresponsable, elle ne change pas. Ça fait des mois que ça dure, tu as envie de, ou bien dans le meilleur des cas, la tuer. Dans le pire des cas, te tuer. Et là, on parle des chrétiens. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas, mais moi, ça m'est arrivé de vivre ça en tant que chrétien. Après, je me repens, je me dis, Seigneur, je ne suis pas chrétien quand même. Hein. Il me dit, si, tu es chrétien, tu es mon fils, viens. Viens, je te prends dans mes bras et viens, je te lessive un bon coup. Une personne, un employé, avez-vous déjà vécu ça? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un employé qui ne comprend rien à ce que vous voulez faire. Vous lui expliquez, vous dites des choses, vous essayez la manière douce, vous essayez la menace, vous essayez la privation, vous essayez tout ce que vous voulez, le gars ne comprend pas, c'est un mur. Lui, ce qu'il veut, c'est son chèque. Et là, tu sais, en tant que patron, que si tu le gardes, ta boîte ira nulle part. Mais comme tu es en France, tu as peur du prud'homme. Une personne que tu aimes, c'est un peu plus précis. Tu aimes cette personne-là et tu t'investis à fond dans la relation, mais elle ne s'investit qu'à moitié. Et tu as l'impression qu'elle ne t'aime pas. Là encore, ce qui suit plus rare, un parent qui essaye de dire à son enfant ce qui est bien pour lui. Très rare. Et l'enfant est persuadé que ses parents se trompent. Et toi, tu es sûr que tu as raison parce que tu as l'expérience. Moi, de mon temps. Ouais, on n'est plus de ton temps, justement. C'est là le problème. Un jeune adulte, et je ne vise personne, s'il vous plaît. Les gens vont croire que je fais des enquêtes sur vous. Non, je ne fais pas ça. Pas du tout. Mais un jeune adulte qui a, je sais pas moi, un jeune adulte qui a 36 ans et qui refuse de se marier, qui vit toujours chez papa-maman, du dîne les bons, le linge de repasser, le vêtement, tout est correct, les dos. Je suis bien chez moi. À... J'encourage les mamans. Mettez votre enfant dehors. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Après, vous vous dites, pourquoi est-ce que l'Église a un problème d'impact ? Les gens du monde nous disent, mais c'est une Église, ton fils a 54 ans, tu fais tout pour lui toujours ? Ben oui ! Non ! Donc, on commence à me suivre, c'est bon ? Écoutez bien ça, je vais vous dépeindre du verbe « dépeindrer ». Une histoire d'amour. J'ai changé les noms de l'histoire vraie, c'est une histoire vraie, mais j'ai mis des noms factices que personne ne va comprendre. La fille s'appelle Stéphanie. Et son gars s'appelle Harold. Et bon, Stéphanie est folle amoureuse d'Harold. Elle est folle de lui. Et elle aime vraiment être avec lui. En fait, ils aiment être ensemble. Le problème... c'est qu'ils n'ont pas la même définition du mot ensemble. Pour Stéphanie, ensemble signifie on est ensemble aujourd'hui pour se marier, créer une famille, fonder un foyer, passer du temps ensemble, échanger plus que des émotions, des idées, des projets, rêver ensemble, gambader ensemble. Mais pour Harold, lui... pour lui, ensemble signifie sortir avec Stéphanie quand il n'est pas avec ses copains. Sortir avec Stéphanie quand il n'a pas besoin de jouer au basket. C'est caser Stéphanie dans sa vie. Pour Stéphanie, ensemble signifie qu'Harold, c'est sa vie. Mais pour Harold, ensemble signifie que Stéphanie fait partie de sa vie. Je viens de vous décrire une situation qui, malheureusement... est vécu par beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre et beaucoup à La Réunion où il y a des jeunes filles qui rêvent d'un mariage, qui rêvent d'un prince charmant, qui rêvent d'un homme selon le cœur de Dieu, et il y a des gars qui, eux, pour eux, ils sont pas prêts, c'est pas le moment. Et là, quand je vois des gens comme ça dans mon bureau, je vois que le gars n'est pas prêt, la fille, elle est totalement prête, elle veut, et on peut inverser des rôles, je pourrais prendre n'importe quelle situation, mais celle-là, elle est vraie et elle est belle. Harold et Stéphanie, mais ce n'est pas leur vraie histoire, d'accord ? J'ai 4 conseils à donner à Stéphanie. Je dis, Stéphanie, écoute, tu as 4 options avec Harold. Ou bien tu continues à le titiller, à l'agacer en lui disant, tu sais, tu ne m'aimes pas, viens avec moi ce soir, et tu lui caches les clés de la voiture. Dès qu'il veut sortir, tu fais, je ne sais pas où sont les clés, tu restes avec moi, si tu m'aimes, tu ne me quittes pas, si tu passes cette porte, je te quitte. Le gars va passer la porte. Ne passe pas la porte. Et tu continues en essayant de le contrôler. Et tu contrôles sa vie. Tu prends son téléphone, tu regardes ses SMS. Que si vraiment il t'aimait, il passerait toutes ses heures avec toi. Et Stéphanie, la vérité, c'est qu'elle est blessée, elle est brisée, elle est cassée en 1000 morceaux. Option 1, elle continue à faire ça. Combien pense ce soir que c'est la bonne chose à faire ? Personne n'a la main ? Ouh, j'ai peur là. Combien pense que c'est la bonne chose à faire ? Personne, c'est cool. Tant mieux. 2, elle peut continuer, ou elle peut commencer à l'inspirer, afin que Harold voit que c'est une déesse, une star, une bombe, la femme de sa vie qu'il n'aura jamais mieux ailleurs, même pas en Suède, ou en Ukraine. Mais le problème, c'est que je dirais à Fanny, tu sais, ou Stéphanie, tu sais, ça fait 3 ans que tu es avec Harold, si Harold... n'a pas encore remarqué que t'es pas une femme, je veux dire, banale, que tu es une femme spéciale. S'il n'a pas encore remarqué ça, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ne remarque jamais. Ouh, c'est silencieux. Où est-ce qu'ils vont venir, le pasteur ? 3e option. Là, ce qu'elle fait, alors, première option, elle le titille, elle agace. 2e option, elle essaie de l'amadouer, elle le peint, elle dit, tu sais, regarde comment je suis, tu vois, toi et moi pour la vie ou forever. 3e option, Elle peut baisser ses attentes, changer ses standards, arrêter d'espérer, Carole, d'un jour soit l'homme qu'elle veut qu'il devienne. Qu'il devienne. Et dire, ok, ben après tout, c'est mieux que rien. Je préfère être accompagnée d'Harold qu'être toute seule. Il y a des femmes qui font ce choix-là, qui préfèrent avoir un gars qui n'est pas vraiment à fond avec elles. Il est heureux, lui. Jusqu'à ce que maman l'attrape. Après, il est plus heureux du tout. Troisième option, c'est elle peut baisser ses standards, rester avec lui et souffrir toute sa vie. Quatrième option, elle va le voir, elle dit, Harold, voici mes attentes, voici ce que j'espère, ce que je veux créer une famille, Dieu m'a appelé pour ça, voici ma vision, voici ma direction, donne-moi la tienne. Une fois qu'ils ont fait cette discussion de vérité, de moment de vérité, ils décident, Harold, c'est avec moi comme ça ou on casse ce soir et je cherche un homme selon mon cœur. Qui choisirait l'option 4? Je vais refaire la question. Qui a déjà choisi l'option 4? Il y a beaucoup moins de mains. Qui choisirait? Ben moi, à l'aise, c'est logique. Vas-y Stéphanie, mais quand tu as la place de Stéphanie, tu ne dis pas la même chose. Tu fais, ben, je vais réfléchir. Allez, on a encore une chance. Écoutez bien cela. Le problème de ces relations-là, et ce soir, le but n'est pas de voir pourquoi Harold ne change pas. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, rappelez-vous, pour respirer, il faut choisir de ne plus jamais essayer de changer l'autre. Et vous allez voir, c'est très très simple. Je ne vais pas être très long, ça va être très très simple. Mais l'une des raisons pour lesquelles, écoutez bien Église, la plupart des chrétiens et non-chrétiens ne respirent plus, c'est parce qu'ils veulent contrôler la vie des autres. Et quand on est leader, c'est encore plus facile, quand tu es en position de leadership, de confondre influencer et contrôler. La limite est très très fine entre je veux influencer la personne, je veux montrer à l'autre comment faire et contrôler l'autre. Il y a plusieurs formes de contrôle, ce n'est pas le but du message, mais il y a plusieurs formes de contrôle. Il y a ce contrôle qui dit, si tu ne fais pas ça, et bien voilà, ou je t'ordonne, ou je te parle plus. Dans les couples, c'est la femme prive l'homme, par exemple, de sexe. L'homme, lui, prive la femme de carte bancaire, ce que tu veux. Il y a plein de choses qui se font tous les jours, des signaux de contrôle. On essaye de contrôler l'autre. C'est aux antipodes de ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est parce que nous contrôlons trop souvent les autres que nous ne respirons plus, et que nous étouffons. Et je connais des gens qui se servent même du jeûne. C'est plus le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de Stéphanie. Pour changer Harold. On se sert du jeûne comme une arme, comme un outil, comme si le jeûne que je vais faire va changer la personne. Ça s'appelle de la magie blanche. Et les choses que Dieu nous demande de faire sont des choses qui doivent toujours venir d'un cœur pur. Checkons, vérifions l'état de nos cœurs. La question de ce soir, c'est est-ce que je suis capable de me regarder en face dans un miroir ce soir et de me dire je ne contrôle pas l'autre. Je n'essaye plus de le contrôler, j'essaye simplement de l'influencer. Une fois que tu acceptes de ne plus forcer les autres à vivre comme toi tu aimerais qu'ils vivent, vous savez, c'est facile pour un papa de vouloir que son fils fasse comme lui ou fasse telle chose. On a vu le week-end dernier qu'un homme qui est devenu médecin a fini sa vie en prison parce qu'au bout de 7 ans, il avait oublié des choses dans le corps des patients parce que sa passion n'y était pas. Il était très intelligent, il avait tous les diplômes, mais il n'était pas passionné pour la médecine, il voulait faire musicien. Et on a vu qu'à force de faire des choses qui n'étaient pas lui, il est devenu quelqu'un qui ne l'était pas appelé à être. Et quand nous contrôlons les gens, nous les interdisons de devenir tout ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Quand nous contrôlons les gens, nous sommes Dieu pour eux. Et quand nous contrôlons les gens, nous empêchons et nous limitons grandement l'influence de Dieu dans une vie. Ça va tout le monde? Comment est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu fait? Quels sont les conseils de Dieu pour que vous et moi, ce soir, nous puissions respirer et voir les gens qui nous entourent changer? La clé du changement pour l'autre. La première chose que nous devrions faire, vous et moi, ce soir, c'est de décider de ne plus jamais forcer l'autre à changer. Obliger l'autre à penser comme moi. Laisser l'autre libre. Galates 6, verset 1 nous dit, frères, sœurs, chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit, l'Esprit Saint vous conduit, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous, je dis à chacun de vous, tu peux être tenté de faire le mal toi aussi. Matthieu 18 nous dit, vous lirez chez vous, mais si ton frère va faire le mal, va le voir, fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Ça nous parle de ce genre de chrétiens qui disent, attends, je pense en train de vous dire que si le gars ne change pas, laisse tout seul, jamais confronté. Si, 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 il faut confronter les gens, il faut les ramener vers le droit chemin, il faut leur montrer que ce qu'ils font est mal, il faut leur donner des conseils, il faut les influencer, les inspirer, mais il ne faut jamais les forcer à faire ce que tu veux qu'ils fassent. Et la limite est fine, on peut facilement franchir le stade où nous influençons les gens, nous inspirons les gens, nous donnons envie de vivre les choses, même pour nos propres enfants, ou si nous les forçons à faire les choses. Proverbe 9 nous dit verset 8, ne fais pas de reproches à quelqu'un qui se moque de tout, sinon il te détestera. Mais si tu fais des remarques à un sage, il t'aimera. Conseille un sage, il deviendra plus sage encore. Enseigne celui qui agit bien, ses connaissances augmenteront. Le problème ici, c'est que Dieu dit, mêle-toi de la vie de ce que tu aimes. Je veux dire, va les voir, conseille les sages, aide les gens qui veulent être aidés, investis-toi dans les relations, parle de la part de Dieu, influence, exhorte, reprend, rétorque, ce que tu veux. Fais des choses pour les relations, mais ne contrôle pas les gens. Et ça se passe dans le cœur, c'est à nous de savoir si là, est-ce que j'influence ou je contrôle? Quelle différence il y a entre influencer et contrôler? Influencer, c'est toujours laisser à la personne le libre arbitre et le droit de choisir ce qu'il veut avec les conséquences. Contrôler, c'est empêcher l'autre de prendre une décision, comme ça tu es sûr que tu contrôles sa vie et il ne fera pas telle chose et c'est toi qui auras décidé ou ce que tu veux, et il va être contrôlé, il n'aura jamais la liberté de choisir. Et Dieu lui-même, dans la Genèse, a placé Adam et Ève dans un jardin. Et ça m'a toujours choqué que Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est-à-dire, si moi j'étais Dieu, pour éviter que Adam et Ève ne tombent trop facilement, j'aurais mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal très 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 loin, à des centaines de milliers de kilomètres de marche. J'aurais caché l'arbre derrière plein d'arbres et plein de montagnes, plein de ferrailles, plein de mauvaises herbes et des galabères. Je mis dans un désert, fallait traverser 50 océans, j'aurais fait un truc impossible à atteindre, l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, dans sa sagesse, dit, voilà, je veux te laisser la liberté, la preuve de mon amour, c'est ta liberté. La preuve de mon rachat, c'est ta liberté. La preuve que je veux que tu sois un fils dans la maison, c'est que je te donne la liberté. Et nous, chrétiens, nous devons être comme notre Père Céleste, nous devons donner aux gens la liberté. Donner aux enfants la liberté. J'ai pas dit permis de faire n'importe quoi. Je dis la liberté de faire des choses et de comprendre les conséquences de ces actes. Nous voulons laisser la liberté aux autres. Mes amis, écoutez bien cela. Dès l'instant où tu contrôles quelqu'un, tu t'enfermes dans la même prison que lui. Parce que tous tes actes et tes décisions et tes journées et tes réflexions et tes remarques vont être en réaction, non pas à ce que Dieu dit et fait, mais en une réaction de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et donc ta vie n'est plus conduite par ton esprit, elle est conduite par l'autre. Et si l'autre est en prison, exemple, tu connais quelqu'un, tu aimes quelqu'un qui est alcoolique, difficile. Tu essaies de l'aider, il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas s'en sortir, il ne veut faire aucun effort. Il souffre, il ne veut pas être soigné, il ne veut pas voir des psychologues, pas voir des pasteurs, il ne veut rien faire. Si tu restes connecté à cette personne et tu essayes de la contrôler, ta vie va être dictée par ses problèmes. Il faut apprendre à laisser les autres libres. Laisser les autres libres, c'est célébrer sa propre liberté. Quand je sais que je suis libre, je m'interdis de contrôler les autres. Quand je contrôle l'autre, je me retrouve dans la même prison que lui. Et son problème devient mon problème. Et combien de mamans m'ont appelé en pleurs parce qu'elles ne comprenaient pas le choix de leur fille et parce qu'elles ne voulaient pas accepter le choix de leur fille et parce qu'elles ont tout fait pour casser le choix de leur fille. Elles ont tout fait pour être sûres que la fille comprenne que non seulement elle n'apprécie pas le choix, mais qu'elle refuse le choix. En refusant le choix de la fille, elles ont perdu les deux. Je parle comme un jeune papa, donc j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis conscient, mais j'ai appris une chose. Contrôler mon enfant, c'est le priver d'être dirigé par le Saint-Esprit. Contrôler ma femme, c'est lui enlever le droit et le privilège et l'honneur et la liberté d'être conduite par le Saint-Esprit. Parce que quand je contrôle les gens, je prends la place de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église dans le monde, francophone, dans le monde entier, n'a jamais réussi à grandir réellement et à changer le monde, parce que le monde nous voit comme des, en anglais on dit control freak, des gens qui veulent contrôler la vie des autres. Fais pas ci, mange plus ça, bois pas ci, fais pas ça, mets-toi comme ci, fais-toi comme ça, prie comme ça, prie comme ci, voici ce que... Et moi j'étais comme ça pendant des mois, des années. Je me suis rendu compte, ça ne marche pas. Et c'est anti-cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est « je te donne la liberté, je te fais confiance. » Voici ce que moi, je te conseille. On va lire juste les passages qui vont suivre rapidement de Jésus-Christ qui va voir le jeune homme riche. En tout cas, le jeune homme riche va voir Jésus. Puis il dit, dans Matthieu, le riche vient le voir et le riche lui dit « tu sais, voilà, je fais ci, je fais ça. » Et l'homme lui dit « maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Il obéit à toutes les règles. Jésus le regarde avec amour et lui dit « une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses auprès de Dieu, ensuite viens et suis-moi. » En fait, Jésus veut dire « tu sais, ce que je veux vraiment, c'est que tu me mettes au top de ta vie. » Alors voilà, pour conclure ce soir, voilà comment Dieu s'y prend. Quand tu veux influencer quelqu'un, propose-lui un choix. Écoutez bien cela. Ne contrôle pas. Contrôler quelqu'un, c'est enlever le choix. Influencer quelqu'un et lui donner envie de vivre, c'est lui proposer un choix. Jésus a dit, tu veux vraiment aller au top? Tu veux vraiment faire la différence? Tu veux vraiment voir les choses différentes? Tu veux vraiment plaire à Dieu? Ouais, suis-moi et vends tout et suis-moi. Oh, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en vais. Josué parle au peuple d'Israël. Je crois que c'est juste avant. Et il dit avec beaucoup de puissance, il dit, si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer, choisissez ceux que vos ancêtres ont adoré de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays, mais moi, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Et il y a encore une fois là cette différence entre deux choix. Il leur dit pas, je vous ordonne, moi, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, reconnu par Dieu, je vous ordonne de me suivre, c'est moi le chef, alléluia. Je suis l'archevêque, le bishop, le pasteur, apôtre, intergalactique. Non, il dit, moi je vais servir Dieu, avec ma famille. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas les servir, adorez ce que vous voulez. Mais moi, je servirai l'Éternel. Vous voyez la différence? Si tu veux voir le changement chez les gens, donne-leur le libre arbitre au maximum. Si tu veux voir le changement chez les gens, laisse-les choisir. Mais pour que cela soit efficace, il faut que tu leur prouves que tes choix sont meilleurs que les siens. Non pas par la substance d'elle-même, tes choix sont meilleurs par les fruits qu'ils portent. Et c'est ça le problème des chrétiens, parce que nous voulons, nous espérons changer les gens rapidement. Non. Allons vivre, allons respirer, allons montrer aux gens que les choix que nous prenons sont les bons, parce qu'ils plaisent à Dieu. Allons montrer aux gens que pour qu'ils fassent vraiment de leur vie une vie qui plaise à Dieu, il faut qu'ils aient le choix. Pour qu'ils aient le choix, il faut qu'ils aient des options et qu'on voit leurs conséquences. Et là, on s'assoit avec eux. Tu sais, si tu choisis d'aller vivre dans tel pays, voici les conséquences. Tu vas en Irak, c'est galère pour toi, mec. T'es en Irak. T'aimes pas le sable. Ouh. Y'a que ça. Mais si tu es appelé de musicien et tu vas vivre, je sais pas, en Chine. Hé, écoute-moi, assieds-toi. Prends une feuille blanche. Cherche le cœur de Dieu. Je serai avec toi, je serai à tes côtés. Si tu es en train de te... Si tu veux te marier, demande à ton amoureux ou ton amoureuse. Chérie, moi, je veux servir Dieu. Et toi? Moi, je sais pas. Tu sais, moi, je suis plus pour Bouddha. Cool. C'est ton choix. Génial. Choisis Bouddha, si tu veux. Moi, j'aime pas Bouddha, je veux Jésus. Il y a un choix. Clair et précis. On reste amis, on est potes, on s'aime, on se respecte, mais je veux te donner le libre... arbitre, je veux te donner ce que Dieu te donne le plus beau, la liberté. Je pourrais passer des heures là-dessus. La Bible dit que Dieu nous a rendus libres. Il dit, ne laissez aucun homme faire de vous des esclaves. Tout à l'heure, je crois que Charles vous parlait de la charte que nous, les pasteurs, nous voulons mettre en place. Vous savez ce qui se passe dernièrement, depuis quelque temps maintenant? Pas mal de chrétiens veulent bénir les pasteurs. Et c'est super, franchement, on n'est pas fous. C'est bien d'être béni. C'est bien se sentir aimé en tant que pasteur, se sentir honoré, respecté, c'est super. Mais nous ne voulons pas tomber dans le piège où les gens croient que pour être béni par Dieu, il faut absolument tout donner à l'homme de Dieu. Non. Pour être béni par Dieu, il faut toujours être conduit par le Saint-Esprit. Ne laissez aucun homme. Aucun. Aucun. Prendre la place de sa parole. La culture de l'honneur, ce n'est pas envers les hommes de Dieu. La culture de l'honneur, c'est envers tous. Bien sûr qu'il y a des niveaux dans l'honneur. Je dois honorer mon papa plus que je vais honorer un étranger. C'est un code de l'honneur. Il y a donc des règles et il y a donc des niveaux. Mais j'ai vu trop souvent des pasteurs faire croire à leur église que si l'église les honore vraiment, alors ils seront bénis. Ouhouhou. Non, Proverbe dit « Honore l'Éternel de tous tes revenus, des prémices de tes revenus, et tu seras béni. Mettez l'Éternel à l'épreuve, pas le pasteur. » Gardez votre cœur assoiffé pour sa parole. Commencez à respirer. Repentons-nous ce soir si quelque part on a voulu contrôler quelqu'un. Si dans vos relations ce soir vous sentez que votre mari ou femme ou vos enfants, vous avez cette tendance à contrôler, lâchez prise quelques semaines. C'est pas facile à faire parce qu'on a peur que si on dit plus rien à notre enfant, il va tourner mal. Mais vous savez que souvent quand plus tu dis ce qu'il ne faut pas faire, plus il tourne mal. Vous avez vécu ça ou pas? Je comprends pas. Peut-être les secs. Peut-être les dieux même. Non, mais peut-être que là, il faut que tu le laisses respirer un peu. Tu es en train de l'étouffer. J'ai un ami à moi que je connais toujours aujourd'hui, mais à l'école, à l'époque, ça m'avait touché. On fait une soirée. Les filles font soirée pyjama. Nous, on fait soirée foot. À l'époque, soirée foot, et on va manger un truc, je ne sais plus c'était quoi, un curry, ou je ne sais plus c'était quoi le plat. Mais le gars a appelé sa maman pour savoir s'il pouvait manger ce plat-là. Je lui dis, mais t'as 15 ans? Ouais, mais ma maman, elle m'a dit, avant de manger un truc chez les étrangers, il faut qu'elle sache c'est quoi pour voir si je peux manger ou pas. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est un contrôle de fou. Donc, j'ai commencé à me dire, oh là, et ce gars-là, aujourd'hui encore, pour toutes ses décisions, quand sa femme fait à manger, il appelle sa mère pour savoir si sa femme a bien fait à manger. Sa femme a envie de le tuer. Oh, ma mère, fait pas comme ça, hein. Dis pas ça à ta femme. Laisse-la brûler le carré, s'il faut. Dis, chérie, c'est bon. Le soir, tu rentres à la chambre, tu pries, Seigneur, que ma mère fasse à manger pour moi demain. Et le point sera le suivant, mes amis. C'est très simple comme message. Je sais que c'est très simple. Et je fais exprès d'être très pragmatique ce soir, en ce moment. Parce que mon cœur de pasteur, c'est de vous voir respirer. De vous voir libre. Libre de venir et de partir. Si vous êtes libre, vous choisirez d'être consacré. Si vous êtes libre, vous choisirez d'être généreux. Si vous êtes libre, vous choisirez d'aimer. Si vous êtes libre, vous êtes libre. Et nous voulons être connus et reconnus comme une église qui manifeste le royaume de Dieu. Et la première qualité du royaume, ou l'une des premières qualités du royaume, c'est la liberté. Et vous connaîtrez la vérité, Jean 8, et la vérité vous rendra. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Quand une église prêche la parole avec son onction, la conséquence numéro 1, c'est la liberté. On prie ensemble ce soir, s'il vous plaît, église.